Bonjour. Dans notre série de prédications de l'Avent, et après Marie, celle qui donne sa vie, puis les bergers et les mages, ceux qui s'émerveillent, nous poursuivons notre étude des quatre types de réactions de personnes confrontées à la venue du Sauveur. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur le personnage le plus sombre de notre série, Hérode. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire le chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu. Est-ce que Simon a toute sa voix? Je sais qu'il y a des extinctions de voix en ce moment. Et alors, je veux bien avoir la lecture de Simon. Je ne l'ai pas prévenu, mais je sais qu'il lit très bien. Alors.
Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi, moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, de l'or, et lui offrirent donc de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en secret de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur qui apparut en songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit pour lui le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement empli auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui était annoncé par le prophète Jérémie. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il y craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen.
Merci Simon. Arrivé à ce stade, il nous faut faire un peu d'histoire. Hérode est le fils d'Antipater, lui-même fils d'Antipas, gouverneur d'Idumée. L'Idumée n'est autre que le pays d'Édom, peuplé, vous le savez, des descendants d'Ésaü. Vous le savez aussi, entre Édom et Israël, la relation est tumultueuse, faite de guerre, d'alliances de circonstances et de trahisons. Toute la famille, les ascendants d'Hérode, s'est convertie au judaïsme, probablement un siècle avant Jésus-Christ, mais il s'agit bien évidemment d'une conversion de circonstances qui vise à faciliter son accession au pouvoir en Judée. Donc, aux yeux des Juifs de sang, qui sont les descendants des Hébreux, Hérode n'est donc qu'un juif de second rang. Son père, Antipater, a été nommé par Jules César procurateur de Judée, alors que lui-même, Hérode, dont il est question ici, est nommé tétrarque de Galilée par Marc-Antoine en 41 avant Jésus-Christ, non sans avoir versé d'importants pots de vin d'une valeur telle qu'ils ont dépassé même les espérances du général romain qui était en pleine ascension politique. Et il saura très bien s'accommoder de la puissance romaine et même l'utiliser habilement, discernant dans les luttes de pouvoir intestine au sein de la politique romaine ceux de qui il était intéressant de se tenir proche. Et en 40 avant Jésus-Christ, il est proclamé roi de Judée, à l'unanimité du Sénat romain, ce qui est une chose tout à fait exceptionnelle, puisque les Romains avaient pour principe de n'accorder le titre royal qu'aux descendants des anciennes dynasties. Ce qui n'était pas encore le cas de la famille d'Hérode. Mais à cette époque, la Palestine est encore contrôlée par les Parthes, en grande partie. Et c'est avec l'aide des Romains qu'Hérode il reprend pied et assiège Jérusalem. Et il s'y installe en 37 avant Jésus-Christ avec le titre de roi des Juifs. Entre-temps, il s'est marié avec une princesse asmonéenne, qui s'appelait Mariamne. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Marianne, mais avec un M. Le premier N est un M. La dynastie asmonéenne était juive et au pouvoir en Judée depuis la révolte des Maccabées. Et cette alliance avec une princesse qui était dite de grande beauté lui confère la légitimité indispensable à son ambition, au prix même de la répudiation de sa première épouse Doris. Et donc la Judée se trouve dirigée par un roi qui n'est juif que de nom. Et il va d'ailleurs rapidement intervenir dans les affaires religieuses du pays, de manière à placer au Sanhédrin des personnes qu'il pourra contrôler, comme par exemple le fils de Marianne, son épouse, qu'il nomme grand prêtre, alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Mais comme celui-ci devient trop populaire, il le fait noyer peu de temps après dans une piscine près de Jéricho. En l'an 30 avant Jésus-Christ, quand il reçoit la confirmation de sa royauté et l'extension de son territoire, il fait périr tous les membres de sa famille asmonéenne et même son épouse Marianne. Et il fait également exécuter trois de ses propres fils qu'il suspectait de comploter à l'évincer du pouvoir. Pour limiter le pouvoir des familles sacerdotales attachées au temple de Jérusalem, Hérode nomme de préférence des grands prêtres d'origine étrangère, égyptienne ou babylonienne. Vous imaginez ce que ça peut être pour des Juifs, aux yeux des Juifs. Mais bien que tyran et sanguinaire, Hérode est loin d'être un roi feignant. Après avoir consacré la première partie de son règne à consolider son pouvoir, il va travailler activement au rayonnement du pays et se lancer dans de grands travaux de construction en mettant à profit les techniques de construction romaine. Et en l'an 20 avant Jésus-Christ, ce sont 10 000 ouvriers qui sont affectés à l'agrandissement considérable qu'il a lancé du temple de Jérusalem. Et c'est de ce temple, appelé temple d'Hérode, qu'il est question dans les évangiles. C'est dans le temple d'Hérode que Jésus a été présenté par ses parents et circoncis. C'est là même qu'il a été reconnu comme le Messie par nos deux personnages de la semaine prochaine, Anne et Siméon. Et c'est dans ce lieu qu'il a chassé les vendeurs du temple. Et c'est sur ces pierres qu'il a prophétisé. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 21, versets 5 et 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et Jésus parle donc du temple d'Hérode. On a dit pendant longtemps que l'actuel mur des Lamentations était le seul vestige qui restait du temple d'Hérode, ce qui, vous l'avouerez, posait quand même un tout petit problème par rapport à cette prophétie, puisque ce mur fait 18 mètres de haut et comporte ainsi donc plusieurs rangées de pierres superposées. Ça pose quand même un petit problème par rapport à la prophétie. Mais en 2011, des archéologues qui travaillaient pour l'autorité des antiquités d'Israël ont annoncé que des fouilles sous les fondations du mur en pierre avaient permis de mettre au jour des pièces frappées par un procurateur romain de Judée 20 ans après la mort d'Hérode. On a trouvé donc sous le mur des pièces qui avaient été frappées 20 ans après la mort d'Hérode, ce qui indique qu'Hérode n'a pas construit le mur des Lamentations. Et en fait, cette découverte vient corroborer un écrit auquel on n'avait pas accordé beaucoup de foi, un écrit de l'historien romain Flavius Joseph, qui affirmait que les travaux du mont du Temple n'avaient été terminés que par l'arrière-petit-fils d'Hérode, Agrippa II, celui-là même qui, d'ailleurs, devant lequel va comparaître Paul avant d'être emmené prisonnier à Rome. Et donc, quand Jésus dit ici, de ce que vous voyez, et cette partie de la phrase est importante, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. On peut littéralement prendre cette parole au mot, parce que de ce que voyaient les gens qui étaient avec Jésus à ce moment-là, quand il leur parlait, le mur des Lamentations qui seul subsiste aujourd'hui n'était pas encore construit, n'existait pas, et ils ne l'avaient pas sous les yeux. Tout le reste du temple est entièrement détruit, probablement enseveli sous l'esplanade des mosquées. Hérode, connu sous le nom d'Hérode Ier ou encore Hérode le Grand, meurt à l'âge de 69 ans, en l'an 4 avant Jésus-Christ. Ça peut paraître surprenant qu'il meure 4 ans avant Jésus-Christ, alors qu'il veut faire tuer... il ne faut pas s'en étonner, puisqu'il est avéré maintenant que la date, l'an zéro qu'on a attribué à la naissance de Jésus-Christ, se situerait en fait entre 4 et 7 ans plus tôt. C'est donc un monarque âgé et en fin de règne qui reçoit en secret les mages venus d'Orient à la recherche du roi des Juifs. Il faut s'imaginer la scène. Il est dans son palais, avec le titre de roi des Juifs, officiel, bien accroché, depuis longtemps, et il entend parler de gens venus de loin qui cherchent un roi des Juifs qui viendrait de naître et qui, en plus, ne le cherche pas dans la famille royale, mais au milieu de Jérusalem, au vu et au su de toute une population médusée d'apprendre qu'un nouveau roi des Juifs viendrait de naître alors qu'aucune naissance royale n'est attendue. Et de plus, Hérode a déjà prévu de diviser son royaume entre ses trois fils, la plus grande partie revenant au fils aîné, Archélaos, dont il est fait mention un petit peu plus loin, la plus grande partie, la Judée, revenant donc à son fils aîné Archélaos. Il faut bien réaliser que cette question de roi des Juifs est au centre de tout ce qui va se passer. Un roi des Juifs qui n'est pas lui, qui n'est pas Hérode, ou qui n'est pas l'un de ses héritiers, ce n'est pas acceptable pour un homme, pour cet homme assoiffé de pouvoir. Il faut aussi savoir que la Bible en parle qu'il existait un parti des Hérodiens, de Juifs tout acquis à sa personne, et qu'on va retrouver en d'autres circonstances, associés avec des pharisiens, pour tendre des pièges à Jésus. On le voit en deux ou trois occasions. Et selon Épiphane, un des pères de l'Église du IVe siècle, le parti des, je sais pas si on dit des Hérodiens ou des Hérodiens, peu importe, serait une secte dont la croyance était qu'Hérode, en personne, était le Christ, attendu dans toutes les Écritures de la loi et des prophètes. Cette thèse, Épiphane a écrit cela au IVe siècle, cette thèse est loin d'être prouvée. Personnellement, j'ai un petit peu de mal à y souscrire. Je pencherais plutôt pour dire qu'il s'agit là de factions partisanes qui se reconnaissent dans certains courants de pensée, par conviction ou par intérêt. Mais quand j'entends parler en politique de cette attente de l'homme providentiel, je me dis que l'histoire se répète. Pour bien des gens, Napoléon Bonaparte ou Adolf Hitler ont été des hommes providentiels. Quoi qu'il en soit, Hérode a bien dû savoir profiter de ses partisans, entretenir leur fidélité, leur dévouement, si ce n'est leur dévotion. Les mages parlent d'adoration. Ils viennent pour adorer le roi des Juifs. Pour un homme comme Hérode, qui est lui-même roi des Juifs, il ne peut s'agir que de quelqu'un destiné à le supplanter. N'oublions pas quelles sont les racines d'Hérode. C'est un descendant d'Ésaü, probablement marqué par la manière dont son ancêtre a été supplanté par Jacob à plusieurs reprises. Si se méfier de tout le monde est incontestablement dans sa nature, se méfier des Juifs est probablement inscrit dans ses gènes. Hérode ne s'y trompe pas. En tant que Juif d'adoption, il sait que les Juifs attendent un Messie. Et il a très bien compris le lien qu'il y avait à faire entre cette histoire de mages et d'étoiles et l'attente de l'envoyé de Dieu qui caractérise la croyance juive. Et en cet instant où Hérode convoque les principaux sacrificateurs et les scribes pour se faire expliquer les Écritures, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est sa croyance ? Serait-ce en quelque sorte un vrai croyant qui a intégré que le Christ viendrait un jour, mais qui, ça tombe mal quoi, pour lui, et qui aurait bien trop à y perdre pour y adhérer, et encore moins se laisser supplanter. Ou alors est-ce un homme superstitieux, et recherche-t-il dans la consultation des sages une direction à suivre, comme il le ferait aussi bien auprès de voyants ou de cartomanciennes? Il s'avérerait que pas mal d'hommes de pouvoir ont recours, même de nos jours, à ce genre de service pour gouverner. Pour ma part, je suis enclin à penser qu'il ne s'agit ni l'une ni l'autre de ces hypothèses. Rappelons-nous comment Hérode a accédé au trône et comment il s'y est maintenu. C'est un homme qui est dans l'anticipation, l'intrigue, le calcul. Et même très avancé en âge, il a un sixième sens pour percevoir tout ce qui pourrait le servir ou au contraire lui nuire. Toute la ville de Jérusalem en émoi, c'est pas bon pour lui. Toute cette histoire de mages et d'étoiles, il flaire là une menace pour son règne et pour la dynastie qu'il a instaurée. Pas la menace d'une intervention divine, qui probablement ne l'empêche pas de dormir, mais sans doute celle d'un mouvement populaire, un mouvement de fond, qui prendrait corps au milieu du peuple, et qui prendrait de l'ampleur, qui échapperait à son contrôle, et mettrait sur le trône quelqu'un d'autre que lui ou un de ses héritiers, sous couvert d'accomplissement d'une prophétie biblique. Pour nombre de Juifs, la venue du Messie viendrait les délivrer de l'occupation romaine, de la domination romaine. Or, Hérode a appuyé son pouvoir sur la puissance de Rome. Je trouve qu'il est assez ironique de penser qu'il se sent menacé en suspectant des agissements dont il a usé pour lui-même accéder au pouvoir. Et c'est assez naturel, je pense qu'il est assez compréhensible de penser que quand on s'est imposé de manière déloyale et injuste, on se sent à la merci de quiconque serait déloyal et injuste envers soi. Et je vais plus loin, si la thèse d'Épiphane sur les Hérodiens qui voyaient en lui le Christ s'avérait juste, à ce moment-là, il serait encore bien plus ironique de penser qu'il se sent menacé par un autre que le peuple reconnaîtrait comme le Christ. Et donc là commencent les grandes manœuvres. Il rencontre les mages en secret, ce qui est bien entendu en droite ligne de tout ce qu'a été le personnage, intrigant et manipulateur. Il use de mensonges, de fausses professions de foi, bref, de tout ce qu'il sait bien faire pour tromper les gens, et il y parvient. Tout sage qu'ils sont, tout prudent qu'ils sont, ils ne flairent à aucun moment qu'il est en train de se servir d'eux. Et la preuve en est que Dieu doit lui-même intervenir en songe pour avertir les mages de ne pas retourner vers lui, ceux dont ils ne se sont pas méfiés. Et là encore, je trouve que la situation n'est pas sans ironie, parce qu'alors qu'il manigance pour se servir des mages, c'est de lui-même qu'ils vont apprendre où trouver l'enfant. Lui veut se servir des mages pour le trouver et ensuite le tuer, mais en définitive, c'est Dieu qui se sert de lui, de sa duplicité, pour accomplir ses desseins. L'Ancien Testament, et en particulier les Proverbes, aborde largement la question du méchant. Et en particulier du méchant qui emprunte des voies détournées pour accomplir ses projets, qui ne considère la notion de bien et de mal que sous l'angle du bien qui peut lui être fait ou du mal dont il peut être atteint. Et donc il ne considère le bien et le mal que sous l'angle de ce qui est bien ou mal pour servir ses propres projets, et généralement des projets orgueilleux, égoïstes ou meurtriers. La Bible nous enseigne à ne pas porter envie à ce genre de personne, à ne pas nous irriter lorsqu'elle vient à bout de ses mauvais desseins, à attendre la manifestation de la justice divine. Et là, je crois que nous sommes en face d'un vrai méchant. Il est frappant de constater comment la prophétie de la naissance du Sauveur s'est accomplie, non seulement malgré le méchant, mais encore à travers lui et à son insu. Et ce qui aurait dû ou pu réveiller Hérode de son orgueil démesuré, l'accomplissement malgré lui de la prophétie, le plonge dans une fureur qui n'a d'égal que sa cruauté. Il faut se rendre compte, hein, celui qui a mis dans sa poche les plus hautes autorités romaines, qui s'est imposé comme le roi d'un peuple qui n'était pas le sien, qui a su écarter tous ceux qui auraient pu menacer son règne, ce roi de l'intrigue, de la manipulation, vient de se faire berner par quelques inconnus venus d'on ne sait où. Du moins, c'est ce qu'il perçoit. Le texte nous dit qu'il a cru avoir été joué par les mages. Hérode ne voit pas le divin. Il ne peut considérer les choses que sous l'angle humain. Tout cela n'est pour lui que jeu d'influence, jeu de pouvoir, et pour une fois, à ce jeu, il a perdu. Et quand je lis les lignes qui parlent de ce qu'on appelle le massacre des enfants innocents, je ne peux m'empêcher de penser à cette parole de Jésus un petit peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand on fait ce lien, le lien ici, à cet instant présent, où des enfants innocents sont massacrés par la folie d'un monarque, je me dis que, ouais, il y a déjà une application avant même que Jésus ait ouvert la bouche. C'est certes dans un contexte bien différent qu'il l'a dit et beaucoup plus tard, mais c'est une réalité pour les dizaines ou peut-être centaines de personnes, de familles de Bethléem, dont les enfants de 2 ans et moins ont été sauvagement assassinés bien avant que Jésus ait commencé son ministère. Et nous, quel rapport avec Hérode? En quoi sommes-nous concernés? En quoi pouvons-nous nous laisser enseigner par ce passage? S'il est des hommes et des femmes de foi remarquables, qui nous semblent inaccessibles, et nous en côtoyons quelques-uns dans notre série de prédications sur l'Avent, Hérode pourrait bien être ce meurtrier, suppôt de Satan, tout aussi inaccessible dans l'horreur et l'accomplissement du mal, un véritable ennemi de Dieu et de ses enfants. L'écueil avec un personnage comme Hérode, c'est qu'il est difficile de nous identifier à lui. Et je vois un cumul de 3 raisons à cela. La première raison, c'est la distance temporelle et culturelle que nous avons avec l'événement. On y voit des pratiques qui semblent d'un autre âge. On y tue à tire-larigot. Et la vie humaine semble n'avoir aucun prix. C'est courant, on y est habitué à l'époque. Si on s'en tient à la seule crucifixion, il s'agissait d'un supplice tout à fait banal de l'époque. Par exemple, la révolte des esclaves conduite par Spartacus s'est soldée par la crucifixion de 6000 personnes. Un maître pouvait crucifier son esclave. La deuxième raison que je vois pour laquelle il est difficile de nous identifier à Hérode, c'est la distance sociale qu'il y a entre Hérode, roi de Judée, et les membres de nos églises, qui la plupart du temps sont de simples citoyens. Aucun de nous n'a et n'aura probablement le pouvoir d'un tel personnage. Et la troisième raison que je vois, c'est la distance avec le personnage lui-même, animé d'un orgueil démesuré, dévoré par l'ambition et la soif de pouvoir, une personnalité tout de même assez particulière et sans doute assez rare. Donc il est difficile de nous laisser avertir par les dérives de ce personnage pour conduire nos vies, difficile de nous sentir concernés dans notre vie de tous les jours. Mais peut-être aurait-il suffi que nous vivions à une autre époque ou dans un autre milieu pour nous sentir tout à coup interpellés et avertis par ce récit qui se termine dans un bain de sang. Et si seuls changent les circonstances et le temps pour que nous agissions autrement, alors peut-être serions-nous bien avisés de tirer enseignement de ce que nous venons de lire. Moi, ingénieur en 2014, qu'aurais-je été en l'an 6 avant Jésus-Christ? Architecte? Constructeur de ponts, de routes? employant des esclaves à tour de bras sans même leur jeter un regard, les bousculant peut-être pour plus de rendement. Ce n'était là rien que très banal pour l'époque et dans ce contexte. Ça donne peut-être un peu le vertige de considérer les choses sous cet angle, mais il nous faut voir les choses en face. Qu'est-ce qui, dans notre comportement d'aujourd'hui, est vraiment le fruit de l'œuvre de l'Esprit en nous? Et qu'est-ce qui nous vient des habitudes de notre temps et de notre éducation? Et si on va dans l'autre sens et qu'on se projette dans l'avenir, comment pouvons-nous imaginer que nous serons jugés par les générations futures pour nos pratiques qui, aujourd'hui, ne gênent personne? Si Paul venait ici nous expliquer, ici même, avec les mêmes mots, ce qu'il enseignait aux Éphésiens sur les relations entre maître et esclave ou entre mari et femme, je suis sûr qu'il ne pourrait pas terminer sa prédication sans se faire jeter dehors comme un malpropre. Enfin non, parce que nous, on est bien éduqués. On laisserait terminer, mais je pense que les anciens auraient fort à faire ensuite pour calmer les esprits. Pourtant, ce qu'il dit, Paul, est révolutionnaire pour l'époque à laquelle il le dit, en faisant considérer au maître comme à l'esclave qu'ils sont tous les deux sous le regard d'un même maître qui, lui, ne fait pas de favoritisme. Il est révolutionnaire pour l'époque en rappelant que le couple est une seule chair, une entité à part entière, unie dans l'amour et le respect mutuel. Voici ce que Paul écrit aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, deux points, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Le chrétien n'est pas appelé à vivre selon le siècle présent, pas même en dehors du siècle présent, mais à se démarquer dans le siècle présent. Si je me satisfais de ne pas être aussi pire qu'Hérode, mes repères sont faux. Si je me satisfais même de ne pas être aussi pire que l'équivalent d'Hérode aujourd'hui, et je pense qu'on en trouverait quelques-uns dans les coulisses du pouvoir ou dans le monde du travail, mes repères sont faux. Nous l'avons lu dans le sermon sur la montagne, « Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté à la poubelle. » Quand Martin Luther King s'est engagé dans le combat contre la ségrégation raciale de son pays, il a refusé de se conformer à l'injustice du siècle présent qui ne dérangeait pas grand monde. Le chrétien n'est pas appelé à ne pas être pire que ses contemporains, mais au contraire à être meilleur. Il n'a pas vocation à se satisfaire de ne pas être moins droit, moins juste et moins fidèle, mais au contraire, il a vocation à être plus droit, plus juste, plus fidèle que ceux de son temps. Et comme le dit Paul, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, Jean nous a parlé d'un deuil qu'il a vécu cette semaine. Bien, il se trouve que moi aussi, j'ai enterré mon patron cette semaine. Et mon patron était incontestablement un homme de pouvoir. Mais un anti-Hérode. Il respectait son personnel et lui faisait tout le bien qu'il pouvait. Il n'en demeurait pas moins patron et savait fixer un niveau d'exigence qui satisfasse les clients. Et il savait que lorsque ça ne fonctionnait pas, les mesures qu'il y avait à prendre, mais il ne faisait qu'à regret et après avoir laissé plusieurs chances. Il aurait pu être un patron banal, s'en tenir à ses obligations légales, mais non, lui a tenu à ce que ses employés soient heureux dans son travail, soient heureux dans leur travail. Et en assistant à cette cérémonie à ces funérailles, j'ai beaucoup repensé à Hérode, parce que je savais que je parlerais d'Hérode aujourd'hui, et au contraste entre les deux hommes, et même ramené à notre époque et aux valeurs de notre époque, Hérode n'aurait pas pu être le chef d'entreprise bienveillant qu'a été mon patron, et même immergé dans les coulisses du pouvoir de la Palestine à l'époque de la naissance de Jésus, mon patron n'aurait jamais été le tyran sanguinaire et cruel qu'a été Hérode. L'un comme l'autre se sont démarqués, l'un par sa cruauté, l'autre par sa bienveillance, l'un en ne faisant confiance à personne, l'autre en donnant à chacun sa chance, l'un en arrachant le pouvoir, l'autre en déléguant le pouvoir. Je pensais à ce moment-là à ce que disait Paul aux Romains, chapitre 2, verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour se démarquer en bien, et bien des gens agissent pour le bien sans connaître Dieu. Mais pour le chrétien, c'est une chose indispensable. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, écrit Paul aux Philippiens. Il pourrait en être de même de bien d'autres choses que la douceur. Un deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, ne craignons-nous pas parfois d'être détrônés de la conduite de nos vies par ce Jésus qui vient tout à coup déranger nos projets, demander de nous engager à le suivre là où nous n'avions pas pensé à lui aller, prendre des chemins que nous n'aurions jamais pris, en un mot, lui abandonner le royaume de nos vies. Si cet enfant, fils de Dieu, né dans une étable, ne nous dérange pas, et pas seulement une fois, lorsque nous sommes confrontés à l'Évangile, mais de manière répétée, tout au long de notre marche avec le Seigneur, alors ne sommes-nous pas en train de consolider le pouvoir que nous avons sur nos vies et d'en écarter celui auquel nous disons appartenir? Il est frappant de constater que toute sa vie, Jésus va être confronté à cette interrogation qui revient comme un leitmotiv, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et ce, jusqu'à sa mort, puisque Pilate encore lui pose la question, lui-même. Et même un écriteau va être posé sur la croix, de manière cynique, ironique, je ne sais pas, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Mais la manière avec laquelle la question est posée à chaque fois montre qu'aucun de ceux qui la posent n'est prêt à se soumettre à son roi. Il y a un petit air suspicieux. Es-tu le roi des Juifs ? Personne ne dit « Sois mon roi, sois mon roi ». Et donc je vous propose de chanter, nous ses enfants, notre désir de le voir régner dans nos cœurs et sur nos vies. Pardon que le chant... Oui, tu es digne, dans le GEM 288. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur.